interdite, première partie enfance. Cette deuxième cassette commence au bas de la page 30 du livre. C'est la suite du paragraphe 5. Lorsque nous arrivions à Évran, on venait en général nous chercher en char à banc, soit à la gare de Dinan, soit à celle de Saint-Dominique, où s'arrêtait le petit ortillard disparu depuis, qui reliait Rennes à Dinan. Le cheval était habitué à faire le trajet, surtout celui de Dinan, où ma grand-mère Quéré et mon oncle Constant, frère de mon père, se rendaient habituellement le jeudi, jour de marché. Il aurait fait le trajet les yeux fermés et s'arrêtait de lui-même aux étapes habituelles sur le chemin, généralement des cafés de bord de route entre l'Envalée et Évran. Le trajet était long, car l'on n'était pas pressé, et il était de bon ton de s'arrêter et de boire un verre de cidre chez les voisins. Nous logions généralement dans une grande chambre lambrissée, qui avait été construite au dos du corps de ferme au moment du mariage de mon père pour qu'il puisse y recevoir la demoiselle de la ville qu'il avait épousée. La chambre ouvrait directement sur le jardin et les champs. On faisait encore le pain au Babray, généralement toutes les 3 semaines. C'était pour nous jour de fête. La grand-mère d'Evran, comme nous l'appelions, cuisait tout spécialement pour nous dans le four, après que les énormes miches de pain de ménage doré nous avaient été retirées, des tourteaux, longues baguettes de pain de froment, toutes en croûte, que l'on fendait en deux toutes chaudes, et remplissait du beurre succulent qui sortait chaque semaine de la baratte et était rassemblé en énormes mottes décorées de dessins et de motifs divers. Je n'ai pas connu mon grand-père Fouéré qui mourut juste au début du siècle. Ma grand-mère d'Evran, par contre, est restée bien vivante dans mon souvenir, bien qu'elle mourut plus tôt que mon arrière-grand-mère de Calac. Elle portait la catiole, petite coiffe minuscule du pays de Dinan, perchée sur des cheveux gris bien lissés, et tiré, retenu par une résille et encadré d'une bande de velours noir. Elle portait aussi le dimanche le grand châle noir à franges à peu près semblable à celui du Trégob, et le devantier orné de dentelles noires dont la poche laissait apparaître un mouchoir brodé. Après la mort de son mari, elle avait continué à tenir la ferme, aidée de son fils aîné Constant et du plus jeune Jules, qui devait être tué à la guerre. Mon père, qui était le cadet, avait été poussé, comme cela se faisait d'habitude, vers les études secondaires. Il les avait affectués au cordelier de Dinan, et à leur suite avait préparé le concours de l'enregistrement. La famille Fouéré était enracinée sur ce coin de terre depuis plusieurs siècles, et la ferme avait été transmise de père en fils, de génération en génération, aussi loin que l'on pouvait remonter, jusque vers le XVIIe siècle. Le Babray fut sans doute le berceau des Fouéré, non peu répandu, excepté dans les pays de Saint-Malo, Dinan et Rennes, et qui prend son origine entre Rance et Villers. Un Adolphe Fouéré de Châteauneuf et de Saint-Juan a été fusillé sur la Garenne à Vannes en 1795 par les troupes républicaines françaises aux côtés de son maître, Monseigneur de Hergé, évêque de Dole, qu'il avait suivi dans son exil à Jersey. On retrouve nombreux dans les anciens actes et dans les registres de paroisses de la Basse-Rivière et d'Evran, des Eustaches, Jean, Jacques et François Fouéré, notables de leur village, baillis ou syndics depuis le règne de Louis XIV. Les racines remontent fort loin dans cette terre bretonne des vents, à la limite nord du bassin de Rennes. Je dois beaucoup à cette vieille souche paysanne de notre pays gallo, au réflexe lent, mais à la conscience sûre et au jugement droit. Mon grand-père Fouéré, comme les Fouérés je l'avais précédé, n'était pas propriétaire du Bas-Rhin. La métairie appartenait alors à l'un des de la ville marquée, parent de l'auteur du Barsaspice. À la mort du grand-père, la grand-mère des Francs et ses trois fils décidèrent d'acheter le Bas-Breil, dont les terres sont depuis restées dans la famille. Le Bas-Breil lui-même est toujours occupé et exploité par les enfants d'une de mes cousines germaines, fille de mon oncle Constant. Pendant toute la guerre, ma grand-mère Fouéré, restée seule et privée de ses fils, avait dû travailler fort dur pour tenir la maison et la ferme. Elle y réussit grâce à sa grande force de caractère, à son calme imperturbable, à son égalité d'humeur et à son sens profond du devoir. Femme de peu de mots, elle avait toutes les qualités de sa race. Humble et fière à la fois, elle n'exigeait pas plus des autres qu'elle exigeait d'elle-même. Mais elle ne se ménageait pas. Elle se hâtait lentement. C'est des Fouérés sans doute que je tiens cette froideur apparente, qui n'est souvent qu'un réflexe de timidité et de repli sur soi, et cette pudeur de caractère qui empêche de se livrer ou de se laisser aller tout à fait. Mais le calme souvent dissimule des tempêtes et des passions rentrées auxquelles on ne peut pas ou on ne veut pas ouvrir les vannes. Mon père lui-même était beaucoup plus populaire et plus sociable que moi, et plus que je n'ai moi-même jamais été. Mon oncle Constant avait attendu la fin de la guerre, faite tout entière dans l'infanterie, pour prendre femme et lui permettre de relever ainsi ma grand-mère à la tête de l'exploitation familiale. Je me rappelle encore fort clairement de son mariage avec celle qui allait devenir la tante Eugénie, issue d'une famille frein de Saint-Juvat. L'immense table décorée de bouquets odorants avait été dressée dans la grange. Les murs de cette dernière avaient été couverts de draps de lin blanc qui sentaient bon le vent et la lande dont les armoires de ma grand-mère regorgeaient. On y avait accroché des fleurs, comme on le faisait à Calac le jour de la fête Dieu, sur les façades des maisons, le long des rues parsemées de pétales champêtres que devait emprunter la procession. Du repas pantagruélique qui suivit, agrémenté de chansons diverses des participants, il m'est resté surtout le souvenir qu'il fut beaucoup trop long pour moi et qu'il remplit toute l'après-midi. La bande d'enfants que nous étions ne tarda pas à s'égayer pour jouer dans la cour, revenant de temps en temps grappiller un gâteau ou une lampée de vin doux. La campagne d'Evran et son paysage bocager on traverse seulement les larges ondulations, sans beaucoup de relief, qui caractérisent les contreforts du bassin de Rennes, n'a ni le charme, ni la variété, ni la beauté de celle de Calais. Ses habitants diffèrent comme diffère leur paysage. Les Bas-Bretons ont la tête beaucoup plus près du bonnet que les Gallois. Ces derniers sont plus calmes, moins soumis aux accès de fièvre et aux poussées de révolte des premiers. Le patois que l'on parle encore dans les campagnes des vents se rattache beaucoup plus aux Français qu'aux Bretons, bien qu'il soit émaillé de multiples termes d'origine bretonnante. Les habitants et leur pays n'en sont pas moins bretons pour autant. Ils savent qu'ils sont distincts. On sent déjà poindre le sentiment de la frontière qui s'accule d'autant plus que l'on se rapproche du pays de Saint-Malo, de Fougères, de Châteaubriand ou de Vitré. Ce terroir d'entre Rance et Vilaine est chargé de souvenirs de notre histoire. C'est à Évran que Beaumanoir, le héros du combat des Trente, avait son château, aujourd'hui transformé en établissement départemental. C'est sur la butte de la justice, Landes à l'époque, dans un champ qui domine celui du Bas-Breil, que fut sans doute signé le traité d'Evran entre Blois et Montfort pendant la guerre de succession de Bretagne. C'est à Bécherel, à un peu plus d'une lieue, que s'élève le château de Caradoc, élégante demeure du procureur La Chaloté, l'une des grandes figures résistantes de notre XVIIIe siècle breton, aux prises avec l'arbitraire de la monarchie française. C'est dans le triangle de Saint-Malo, Dinan, Planquette, qu'est née la conjuration bretonne de notre Armand de la Rouërie, qui visait à rétablir la Bretagne dans son autonomie et ses droits nationaux, illégalement supprimés et foulés aux pieds par la Révolution française à ses débuts. C'est cette conjuration qui fut l'inspiratrice de la chouannerie, représentée bien à tort et uniquement pour la discréditer, comme une rébellion purement royaliste, alors qu'elle était avant tout nationale et bretonne dans son origine et dans ses buts, même si certains voulurent plus tard l'en détourner. Aujourd'hui encore, je ne peux me promener dans les campagnes de Dinan, d'Evran et de Bécherel sans évoquer ces grandes ombres de notre histoire. Mais je n'y pensais pas encore lorsque, gamin échappé de l'école, je vagabondais dans les champs et les alliés du Pareil, ivre de liberté, de campagne et d'Hercule. Paragraphe 6. Ma sixième terminée, mes parents décidèrent de me faire revenir à Paris pour y continuer mes études secondaires. C'est ainsi que je fis une cinquième au lycée Montaigne et que je suivis à partir de la quatrième les cours de Louis le Grand. Après un court séjour à Villemomble, mes parents s'étaient installés dans un petit appartement de l'avenue du Parc de Montsouris. Il suffisait de descendre le boulevard Raspail dans toute sa longueur pour atteindre le ministère des Travaux Publics, boulevard Saint-Germain, où mon père avait ses bureaux. Pendant les quatre années que durèrent ses fonctions auprès d'Yves Le Troquer, il s'attacha à ce dernier et le seconda fidèlement, s'occupant tout spécialement de ses relations avec ses électeurs des Côtes du Nord, attentif à leurs besoins les plus divers et animant les campagnes électorales. De nombreuses réalisations dont le département bénéficia pendant cette période sont à inscrire à l'actif du polytechnicien Yves Le Troquer et indirectement de mon père. Ce dernier faisait en Bretagne des voyages fréquents. C'était l'époque des inaugurations des monuments aux morts de la Grande Guerre auxquels le ministre était convié dans le département dont il était l'élu. Il fallait le remplacer et le représenter, au prix parfois de deux nuits consécutives de voyage en chemin de fer, et y prononcer le discours du ZAP. Mon père s'amusait souvent, au retour, à me raconter les morceaux d'éloquence des personnalités locales, souvent encore dans les districts bretonnants, peu familières avec la langue française. S'inclinant devant cette pierre qui a versé son sang pour la patrie. Ou bien encore, nous tous, fantassins, artilleurs, hommes de génie, avons fait ensemble notre devoir. On était encore dans l'euphorie d'une victoire chèrement acquise, mais son prix avait été trop lourd pour ne pas peser profondément sur l'avenir de la Bretagne et de la France durant les deux décades qui allaient nous séparer d'une nouvelle guerre mondiale et pendant lesquelles je suis arrivé à l'âge d'homme. La vie n'était décidément plus comme avant. Je n'étais pas encore en âge de m'en préoccuper dans le début des années 30, des années 20, ni de ressentir les problèmes qu'elle posait. La Bretagne restait pour moi celle de mon enfance. Je ne rêvais que d'y retourner. Ce que nous faisions à toutes les vacances, petites ou grandes, grâce aux facilités de circulation que nous procuraient les fonctions de mon père aux travaux publics. Paris n'était pour moi qu'un exil. Il l'est depuis toujours demeuré. J'y apprenais cependant beaucoup. Ayant fréquenté le patronage du quartier rue de la Tombissoire, où se trouvait l'église de notre paroisse, je ne m'étonnais plus que beaucoup des habitants de Calac n'aient encore jamais vu la mer, dont une trentaine de kilomètres seulement les séparait. Nombre des enfants du quartier n'étaient jamais allés plus loin vers le centre de Paris que les magasins du Bon Marché, et de l'autre côté, plus loin que le parc Montsouris et la porte d'Orléans. La plupart n'avaient jamais vu un champ, une fleur que l'on puisse cueillir, un espace vert sur lequel l'on puisse marcher, ou un ruisseau en liberté. Les rues, les immeubles, les cours, les squares du quartier étaient les seuls horizons qu'ils connaissaient. Sans le leur dire, je les plaignais profondément et m'étonnais, à mesure que mes études avançaient, que l'on puisse considérer Paris comme la ville lumière, centre de la culture, de la civilisation et du progrès. Ces constatations très simples m'ont toujours empêché d'y croire, malgré l'enseignement de nos maîtres, et bien que je fusse alors sensible à la grandeur française. Pourtant, la vie dans le Paris de naguère était beaucoup plus supportable qu'elle ne l'est devenue, depuis que ses boulevards et ses rues ont été transformés en un immense garage. La circulation automobile y était relativement réduite. Beaucoup de livraisons se faisaient encore par des véhicules que traînaient des chevaux. Il était interdit de garer les voitures pour la nuit sur la voie publique. Leurs propriétaires devaient les déposer dans un garage. Après 8 heures du soir, les avenues appartenaient ainsi presque uniquement aux promeneurs et à la belle saison, aux enfants qui s'y ébattaient. Je n'apprenais pas seulement dans les livres. Élève assez médiocre par ailleurs, j'étais surtout intéressé par l'histoire et les lettres. Il m'est arrivé d'être dans le même trimestre dernier en mathématiques, mais premier en histoire ou en dissertation française. Ici encore, les facilités accordées aux membres des cabinets ministériels de la République me servirent. Il m'est arrivé fort souvent d'assister gratuitement dans la loge officielle aux représentations classiques de l'Odéon, du Théâtre français et de l'Opéra comique. Mes cours se prolongeaient ainsi de la manière la plus vivante. Je me mis également à lire nombre de romans historiques. Alexandre Dumas, Jules Verne, André Lory, Fenimore Cooper n'eurent bientôt plus de secret pour moi. Je complétais Mallet et Isaac par d'autres lectures plus approfondies. Mes compositions françaises, mes carnets de notes, les pages d'un journal maintes fois repris et maintes fois abandonné étaient pleins de descriptions poétiques de la campagne bretonne, de ses jasons en fleurs, de ses landes et de ses rivages. J'avais 13 ans quand, ayant requis la collaboration de ma sœur qui en avait 10, je lançai mon premier journal mensuel intitulé Un joli roman, roman historique que j'avais entrepris d'écrire et qui n'eut jamais de fin. Nous copiions ce journal entièrement à la main en une dizaine d'exemplaires que, joignant l'utile à l'agréable, nous vendions à mes parents et aux membres de la famille. Il n'en parut, faut-il le dire, qu'une demi-douzaine de numéros. Les élections de 1924 ayant amené un changement dans la répartition des groupes politiques à la Chambre des députés, Yves Le Trocquer dut abandonner à cette époque le ministère des Travaux publics. Il ne devait plus par la suite retrouver de poste ministériel jusqu'à sa mort, survenue alors qu'il siégeait au Sénat. Il ne s'en consola jamais. Son collègue Riault, député du Morbihan, et lui avaient été les ministres bretons de cette chambre bleu horizon, élue en 1919, tout de suite après la fin du premier conflit mondial. Ils avaient eu le désagrément et l'honneur de subir les reproches de Poincaré, leur président du Conseil, lorsqu'il leur était arrivé d'utiliser le breton dans leurs discours officiels en Bretagne. Mon père m'a rapporté qu'agacé par ses reproches, Yves Le Troquer avait un jour répondu au président du conseil qu'il n'avait pas trouvé d'autre moyen de faire applaudir son nom et son gouvernement en Bretagne. Poincaré ne dit rien, mais il oublia de faire appel à ce breton après les élections de 1924 et la faillite du bloc des gauches lors de la constitution de ses ministères ultérieurs, au cours desquels il devait d'ailleurs engager des poursuites contre les autonomistes alsaciens, vilipendant du même coup leurs alliés bretons. Ces changements politiques devaient inévitablement amener un autre changement dans notre vie familiale. À sa sortie du ministère des Travaux publics, mon père avait été nommé receveur des finances à Clermont dans l'Oise, à quelques 75 km au nord de Paris. J'avais tout juste eu le temps de terminer ma troisième. Pour éviter un nouveau changement de lycée, mes parents décidèrent, à mon grand désespoir, de me laisser à Louis-le-Grand en qualité d'interne. J'y poursuivis ma seconde. Cette année d'internat me fut très pénible. Je n'étais décidément pas fait pour la vie en communauté et la promiscuité constante de mes condisciples me pesait. Mon goût naturel de la solitude, du rêve et de la méditation solitaire, mon amour de l'espace et de la liberté était constamment réprimé. Je me réfugiais le plus souvent possible, malgré l'interdiction qui m'en était faite, dans des classes vides ou dans le jardin de la cour centrale du lycée. J'accumulais les punitions, les retenues, les consignes et les interdictions de sortie. Je me heurtais à quelques-uns de mes professeurs. Je finis par passer en conseil de discipline et échapper de peu au renvoi. C'est sans doute de cette période de mon existence que date le constant irrespect à l'égard des règlements, des lois et des contraintes de toute nature qui devaient inspirer toute ma vie postérieure et que mon combat pour les libertés de la Bretagne allait encore aiguiser. La vraie discipline était à l'image même de la caserne napoléonienne à l'intérieur de laquelle tous les Français vivaient encore. Le réveil se faisait au tambour, et c'est au même son qu'étaient marquées toutes les heures de classe et de récréation. La liste des interdictions était infinie, comme celle des cours, classes et couloirs interdits. Lorsque mes punitions ne m'empêchaient pas d'en bénéficier, je les trouvais parfois longues, mais il n'était pas question que je les raccourcisse. Je prenais la mentalité du troufion qui attend patiemment au froid dans la rue le dernier moment possible avant de rentrer à la caserne. Le repas terminé, que je prenais en général chez mon oncle Liégar, dont le cabinet médical était installé avenue de Drurolin, ou bien chez les parents de ma tante Suzanne, je visitais en détail les musées, complétant ainsi mes cours d'histoire. Carnavalet, Cluny, le Temple, la chapelle des Carmes, le Louvre, n'eurent bientôt plus de secrets pour moi. Plutôt que de rentrer directement au lycée après leur visite, j'errais dans les rues ou sur les quais, achetant parfois un croissant ou un pain au chocolat dans une boulangerie pour passer le temps. Je me refusais à rentrer avant d'avoir épuisé les dernières minutes de ma liberté. Je n'ai gardé de mon séjour à Louis-le-Grand, où se trouvaient en même temps que moi, mais dans des classes différentes, Philippe Daudet et Michel Debray, de relations amicales qu'avec un seul de mes condisciples, Pierre Pouillot, qui entra par la suite en même temps que moi au ministère de l'Intérieur, avant de bifurquer vers les finances et la Cour des comptes. Mes parents finirent par se décider à me faire accomplir à Clermont mes dernières années d'études secondaires, et c'est ainsi que je complétais ma philosophie au collège de cette ville. La maison était grande, la ville était petite. Pour la première fois, j'avais ma table, mes livres, ma chambre personnelle au haut de la maison. Ma fenêtre s'ouvrait sur un vaste horizon de jardins et de bois. Nous n'étions que 8 en classe de première et 4 en classe de philosophie. Mon travail se fit plus intensif et je n'eus pas de difficulté, malgré de mauvaises notes en mathématiques, à passer mes 2 baccalauréats. Je venais tout juste d'atteindre 17 ans. Paragraphe 7. Pendant toutes ces années cependant, parisienne ou clermontoise, la Bretagne ne m'avait pas quitté. Exaspéré par l'exil, ma conscience bretonne était devenue plus vive. Le départ de mon père des travaux publics n'avait que peu changé nos habitudes vacancières et avait seulement ralenti la fréquence de nos voyages. Nous passions un mois à la mer, en général à Trestra ou à Plouvenat, dans des maisons louées où mon père nous rejoignait. Le reste du temps, nous le passions chez ma grand-mère Liégard. Elle n'était restée que peu de temps à Saint-Brieuc, trop loin sans doute de son horizon familier. Elle occupa plusieurs années par la suite l'une des maisons qu'elle possédait rue de la Madeleine à Guingamp, mais ne tarda pas à regagner Calac, à peu près au moment où je passais mon baccalauréat. J'allais aussi, de temps en temps, la plupart du temps seul, faire des séjours au Bas-Breil chez ma grand-mère Fouéré. L'on m'avait fait cadeau d'une bicyclette qui, au départ de Guingamp, me permettait d'élargir le cadre de mes promenades et de mes randonnées solitaires. Lorsque je fus plus aguerri, je me rendais souvent de Guingamp à Calac à bicyclette pour passer quelques jours chez la grande-grand-mère dont les conversations sur le vieux Calac, ses habitants, ses traditions et ses coutumes me fascinaient. Elle était si vieille et avait connu tant de choses et de gens. Elle parlait plus facilement que ma grand-mère, sa fille, qui était d'une extrême gentillesse et d'une grande égalité d'humeur, mais qui, peut-être plus réservée, semblait poursuivre en permanence une sorte de rêve intérieur, en sortant parfois pour nous chanter quelques chansons de son enfance. Je vivais profondément mon pays. J'en respirais l'odeur avec délice, il me semblait y retrouver la liberté. La Bretagne, dont j'étais privé 9 mois de l'année, entrait en moi. Elle envahissait toutes les fibres de mon corps et me remplissait l'esprit. À Pérouse, nous assistions régulièrement au pardon de la clarté, dans la petite chapelle de granit rose ouvragée où brillaient les cierges, chapelle que nous réussîmes à sauver plus tard au comité consultatif de Bretagne, lorsque les Allemands voulurent la détruire pour des raisons militaires. Le pardon se célébrait sur le placître d'où l'on découvre, de Trégastel aux 7 îles, un admirable horizon marin, illuminé de soleil, baigné d'une sorte de vapeur bleue. La procession s'étirait par les chemins, derrière la majesté des bannières brodées d'or, des reliquaires et des ex-voto marins, portés par des trégorroises en costume, châles et coiffes de gala, au son des cantiques entonnés en l'honneur d'Itrondvaria Arsklerder et de Santézana. À la nuit tombante, les pèlerins se rassemblaient devant le Tantad, dont les flammes claires attisées par le vent de mer s'élevait sur un fond de ciel bleu marine que trouvaient déjà les premières étoiles. À Guingamp, le pardon de Notre-Dame de Bon Secours, célébré en juillet, était d'une incomparable splendeur. La Vierge Noire, couronnée d'or, vêtue d'une robe parsemée de pierres brillantes, faisait dans sa ville, portée sur les épaules des hommes, sa sortie annuelle. La nef de la basilique, au moment de l'office, était remplie d'un parterre de coiffes blanches. À la tombée de la nuit, la procession parcourait les rues principales, d'où toute autre circulation était proscrite. Les participants portaient pour la plupart un cierge allumé à la main. Les étoiles semblaient être tombées sur la terre pour former un immense serpent lumineux d'où montaient les chants religieux et les cantiques bretons. Aux trois coins du triangle que forme la place du centre, les tantades étaient dressées. Avant que la procession ne rentre à l'église, le prêtre y mettait le feu. Je me laissais aller tout entier à la ferveur d'un peuple auquel je m'identifiais. À Évran, il m'arrivait parfois d'être présent au Pavreil un jour de buée. On y faisait le lavage et la lessive guère plus d'une fois par mois, quelquefois moins, car il fallait choisir un jour de soleil, et seulement lorsque les piles de draps et de linge commençaient à baisser dans les armoires profondes. Les femmes avaient au préalable lavé le linge au douai, elles le ramenaient à peine essoré dans la poêle. Procédait dans la cour à sa bouilliture, dans d'immenses lessiveuses, au-dessus d'un feu de bois. On l'essorait ensuite à la main. Pour les draps, il fallait se mettre à deux, chacun tenant un bout et le tordant dans un sens différent. Le tout était mis à sécher sur les ajoncs. En ce temps-là, le linge était solide et ne craignait pas les épines. De loin, on aurait dit que d'énormes parterres de fleurs blanches, tout d'un coup épanouies, avaient remplacé l'or des ajoncs ou le vert des talus. Ainsi bouilli et séché, le linge était d'une blancheur étincelante et d'une odeur rafraîchissante que ne réussiront jamais à lui conférer nos machines modernes et leurs détergents nocifs. Parfois aussi, j'assistais à la mise à mort du cochon, dont les morceaux étaient salés et conservés dans d'énormes fûts de grès. La grande salle commune était transformée en une sorte d'usine où l'on fabriquait le poudin et les saucisses, utilisant le sang et les intestins du porc que l'on ébouillantait et lavait à grande eau. Des mètres de saucisses étaient mis à fumer dans la grande cheminée où plusieurs hommes pouvaient se tenir debout. Les saucisses fumées et le beurre frais que l'on travaillait au saloir à sa sortie de la parade sont restés dans mon souvenir de véritables régals associés à mes passages au Pavreil. Les fêtes de la Sainte-Barbe, dont la petite chapelle se dresse sur un terrain dont le sol a été donné à l'église par le grand-père Quéré, nous ramenait à Calac vers la fin de juillet, dès que nous fûmes en âge d'en suivre les bals organisés dans la grande salle des Halles. C'était une des rares occasions que nous avions de rencontrer la plupart des nombreux cousins qui descendaient comme nous de la grande grand-mère. Les manèges et les baraques foraines étaient installées sur la place. Les courses de chevaux se tenaient dans un champ à Quérette sur la route de Morlaix. Mes premières rencontres féminines, mes premiers flirts avec les nombreuses filles d'un docteur de la ville et quelques autres, eurent ainsi Calac pour théâtre. Les fêtes n'y avaient guère de caractère religieux. Elles étaient seulement profanes. C'était pour toute la jeunesse du pays, pour celle de nos parents avant nous, l'occasion de réjouissance et de rencontres que la relative austérité et la régularité de la vie courante ne permettaient guère en temps ordinaire. Les discos et les vals du samedi soir n'étaient pas encore nés. Elle rompait ainsi, pendant les quelques jours qu'elle durait, la rigidité des contraintes sociales qui sont restées jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont aujourd'hui. On ne pouvait guère y rencontrer trop souvent deux filles sans que toute la ville en parlât. Heureusement, la campagne était vaste, ses chemins creux et ses bois accueillants, ses vallons parfumés. Au temps où j'ai commencé à participer aux fêtes de Calac, on dansait encore sous les halles les danses de nos grands-mères, quadrilles, polkas, valses, galop et mazurka. Notre jeunesse n'allait pas tarder à bousculer les traditions. Nous préférions les danses plus modernes et plus rapprochées. Tango, foxtrot, charleston, c'est pas the doubles, remplacèrent bientôt les danses plus classiques. Les fest-snow n'avaient pas encore remis les danses bretonnes à la mode. Elles ne restaient pratiquées à l'époque que dans quelques rares fêtes, comme celle de la Saint-Loup à Guingamp, et elles n'étaient plus guère pour le reste qu'objet de folklore. Nous connaissions l'emplacement des interrupteurs électriques. Nous relayions pour plonger quelques instants et à plusieurs reprises vers la fin de la soirée les halles dans une obscurité totale, ce qui nous permettait de prendre avec nos cavalières quelques innocentes privautés. À Calac, comme à Évran, il y avait les visites dans les fermes du voisinage, chez des parents, des voisins, des fermiers ou des amis. Elles se déroulaient selon des rites immuables. Le verre de cidre ou la tasse de café, le pain et le beurre ou les crêpes étaient acceptés après avoir été refusés plusieurs fois. La maîtresse de maison sortait alors les verres ou les bols, les miches de pain et les bottes de beurre ornées de dessins faits à la cuillère de bois. Elle ouvrait les deux battants de son armoire à linge, dont on pouvait ainsi constater la richesse. Elle en sortait un torchon frais, avec lequel elle essuyait soigneusement, en votre présence, chaque verre et chaque bol, alors qu'il en avait nullement besoin, avant de les placer devant vous. Tous ces gestes étaient accomplis avec simplicité, mais aussi avec une sorte de noblesse et de lenteur majestueuse. Il faut savourer la richesse qu'est le temps. Et il n'est pas de bon ton d'être pressé lorsque l'on reçoit ou que l'on est reçu. Paragraphe 8. La présence de ma grand-mère à Guingamp qui me permit d'assister à mon premier congrès breton, celui du Blainbrugge, qui se tint dans cette ville en 1925. Je fus émerveillé de la richesse et de la beauté des costumes de cérémonie des différents pays de Bretagne, dont je ne connaissais jusqu'ici que celui du Trégor. Transporté d'enthousiasme à l'audition des chorales dont les chants éveillaient en moi des échos inconnus. Je rôdais autour des groupes en costume, m'émerveillant de la splendeur de ceux de la basse cornouaille, chamarrés d'or, de jaunes et d'oranges, des dessins étranges brodés sur les gilets, les chapeaux et les tabliers, de la légèreté des coiffes et des châles du Léon, du Vanté et des îles. J'essayais de saisir quelques mots de breton, n'osant pas parler aux participants. J'assistais aussi à quelques séances d'études, l'une consacrée à Luzel, animée par un prêtre dont je n'ai retenu que la préciosité avec laquelle il parlait. L'autre, plus politique, dont j'ai oublié le sujet, mais au cours de laquelle je remarquais l'intervention d'un grand jeune homme maigre et d'un jeune abbé flamand, celle d'un vieillard frêle dont on s'attendait à chaque instant qu'il succombât sous le poids des ans. Je n'ai su que dix ou douze ans plus tard, lorsqu'ils furent devenus des amis, qu'il s'agissait d'Olivier Mordrel, de Jean-Marie Gantois et de François Vallée. On ne ménageait pas la France. Sa politique d'assimilation linguistique, son gouvernement, son administration. Avant de se séparer, on avait chanté le chant national Brogoz Mazadou. Je me faisais l'effet d'avoir assisté à une réunion de conspirateurs et commençais à me poser d'innombrables questions. La Bretagne avait été indépendante. Il y avait encore des Bretons qui regrettaient qu'elle ne le soit plus. On pouvait se battre pour qu'elle le redevienne. Un monde nouveau s'ouvrait à mes pensées. Dès lors, je me mis à lire tous les livres bretons qui me tombaient sous la main. Je remplaçais Alexandre Dumas par Paul Féval, l'histoire de France par l'histoire de Bretagne. Je fis l'acquisition de la langue bretonne en 40 leçons de François Vallée. C'est de cette époque que date aussi ma découverte d'Anatole Lebras, de Briseux, de Souvestre, de Charles le Gothique, celle du Barzaz Breil dont les poèmes m'enflammaient. J'avais aussi découvert dans les vieux papiers de ma grand-mère au grenier les notes manuscrites d'Auguste Liégard sur l'histoire de Bretagne ainsi qu'un exemplaire débroché des États de Bretagne d'Adrien de Carnet. Ce dernier livre, la lecture du discours qu'il reproduit prononcé par l'abbé Maury à la Constituante après la répudiation unilatérale par cette assemblée du traité d'union franco-breton de 1532, fut pour moi une autre révélation. Pendant des siècles, les Bretons s'étaient donc battus pour leur indépendance d'abord, puis pour leur autonomie au sein de la France ensuite. Cette histoire de mon pays me fascinait. J'entendais le fracas des batailles, les acclamations des vainqueurs, et les plaintes des vaincus. Je vivais les intrigues obscures et les complots de l'ombre, je partageais l'allégresse des victoires, les amertumes des défaites et des trahisons. Et toujours il y avait en toile de fond et à toutes les époques les efforts et les combats de ce peuple qui était le mien, qui voulait vivre et s'affirmer dans le concert des nations. Pourquoi ne pas continuer de nos jours un combat qui m'apparaissait aussi légitime que nécessaire? La Bretagne n'était pas morte. Sa langue, sa conscience nationale, son particularisme, ses traditions, sa manière à elle de vivre, de croire et de penser, ses différences, cela existait. Je le sentais profondément, en même temps que montait en moi l'irrésistible appel de la patrie. Dans les années qui allaient suivre mon baccalauréat, je commençais à m'attacher de plus près à la politique bretonne. Je m'abonnais à Breizetau, je m'intéressais aux procès intentés par le gouvernement de l'époque aux autonomistes alsaciens, m'indignais des tracasseries policières montées contre les autonomistes bretons à la même époque, à la suite du congrès de Châtelain en 1928. Et surtout, je continuais à approfondir la matière bretonne, m'attachant particulièrement à l'histoire. Après beaucoup d'hésitations, car j'aurais sans doute étudié la médecine, tradition bien ancrée dans ma famille maternelle, si mon oncle Henri Liégard m'y avait encouragé. Je m'étais décidé à m'inscrire à la faculté de droit, et à l'école des sciences politiques dont les cours m'attiraient. Il était possible de les suivre de Clermont, qu'une heure de chemin de fer seulement séparait de Paris. On me prit donc un abonnement sur le réseau du Nord. Je devais faire régulièrement le trajet au cours des années suivantes, 3 ou 4 fois par semaine, soit de Clermont, soit de Compiègne, où mon père allait être nommé receveur des finances en 1928. Je ne ressentais à l'époque, à vrai dire, aucune vocation précise. Il m'était insupportable de penser à la vie comme étant tracée d'avance et à la merci d'un choix qu'il me fallait faire dès maintenant, rétrécissant des horizons et des possibilités que je désirais conserver les plus vastes et les plus ouvertes possibles. Très tôt, il m'avait été pénible de penser à l'avenir en des termes purement matériels, de profession ou de métier. Je me refusais à m'enfermer, dans tous les sens du terme, dans les perspectives qu'il m'aurait été par la suite impossible ou difficile de changer. Je n'avais pas non plus d'ambition déterminée. Je préférais conserver le monde ouvert devant moi comme un carrefour où l'on s'arrête longuement avant de trouver son chemin. Il est heureux de ce point de vue qu'au cours de ma vie future, les événements allaient souvent se charger de choisir à ma place. La suite et la fin sont de l'autre côté de la cassette.